Investigation, Justine Katz.
Bonjour et bienvenue dans ce podcast de la cellule investigation de la RTBF. Aujourd'hui, on s'intéresse à la flambée des prix de l'énergie et plus particulièrement au prix du gaz qui a ébranlé la société tout entière l'hiver dernier. Des milliers de Belges ont vu leurs factures s'envoler et ont craint de ne plus pouvoir payer. Des familles, des indépendants, des grandes entreprises, des hôpitaux, tout le monde avait les yeux rivés sur le prix du gaz qui a atteint des records jamais vus en Belgique avec des montants multipliés par 10 en seulement 6 mois. Alors, quels sont les mécanismes qui ont entraîné cette augmentation? La guerre en Ukraine est-elle la seule responsable? Quel impact cela a-t-il eu sur la vie des Belges? Et surtout, cela risque-t-il de se reproduire l'hiver prochain? Nous poserons ces questions à nos invités dans la deuxième partie de ce podcast. Mais avant cela, Gérald Vandenberg, c'est vous qui avez réalisé cette enquête pour Investigation. Où en sont les prix du gaz en cette fin du mois de juin 2023?
Ça varie assez fort d'un jour à l'autre, mais je dirais qu'on est à peu près entre 25 et 30 euros du mégawatt-heure. Donc, ce qui signifie qu'on est à peu près 10 fois en dessous des prix qui ont constitué le sommet du pic de la crise du gaz au mois d'août dernier. Donc, on est quand même bien redescendu par rapport à ces prix-là. Reste que, par rapport à ce qu'on a connu pendant le Covid, où là, on avait des prix exceptionnellement bas, là, on est quand même encore à peu près deux fois le prix.
On va revenir sur ces questions du prix dans quelques instants. Prix du gaz, l'engrenage infernal, c'est notre investigation du jour. Elle est signée Gérald Vandenberg, Stéphanie De Smet et Ariane Dufresne.
Saint-Gilles, 12 septembre 2022 en soirée. J'ai rendez-vous au restaurant L'IS, près de la place communale.
Vous n'avez pas pris votre commande encore, tout ça ? Si ? Non, mais du coup, Glenn, il va passer et il va prendre les commandes de tout le monde. Et ensuite, on va commencer à envoyer.
En terrasse, un cuisinier s'affaire sur un immense barbecue.
Vous avez l'habitude de ce type de cuisson ?
Absolument pas.
C'est une grande première ?
Une grande deuxième.
Est-ce que vous pourriez envisager de faire ça tout le temps ?
Ah bah si les prix continuent d'augmenter, on va faire ça très souvent, effectivement.
À l'intérieur, tout est éclairé à la bougie. Ici, on cuisine sans électricité, sans gaz.
Dans une cuisine comme celle-ci, se passer de gaz, ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça change?
Ça signifie principalement de se passer de ça. Donc, du coup, notre gazinière 4 feux avec le four, qui est quand même la pièce maîtresse de toute soirée en restauration réussie, ça signifie se priver de l'eau chaude, parce que c'est au gaz. Et que genre privé d'eau chaude, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de laver une friteuse à l'eau froide, mais genre ça prend quelques décennies et c'est pas très agréable.
Ça veut dire que si ça devait être comme ça tout le temps, c'est pas gérable en fait?
C'est une autre gestion. Il faut trouver des solutions assez intenses.
Et du côté des clients, pas de déception.
C'est très simple en vrai, c'est très frais, donc c'est super bon.
Est-ce que vous pourriez imaginer qu'à l'avenir, ce soit toujours comme ça au restaurant, sans gaz, sans électricité et un peu dans le noir?
Mais en fait, ça pourrait être chouette, mais je ne sais pas si c'est vraiment viable. Faudrait voir. Je pense qu'il va faire aussi peut-être froid cet hiver, on ne sait rien. Est-ce qu'il fait, s'il fait peut-être 5 degrés dehors, est-ce que c'est la même chose? Je ne sais pas.
Sel, moitié sucre, cuit pendant 2 heures, mariné, fenouil citronné, un peu d'huile d'olive et voilà.
Pierre Milour et Pierre Renaudat sont à l'origine de cette soirée sans gaz et sans électricité. L'ambiance est franchement détendue, mais je sens qu'elle cache une certaine peur de l'avenir. Ces deux patrons de restaurants l'avouent à demi-mot, la survie financière de leurs établissements est menacée par leurs factures de gaz.
La mienne, pour être très pragmatique, elle est passée de 600 euros par mois à 1800 euros par mois.
C'est gérable ça ?
Absolument pas. C'est des coûts qui ne sont pas absorbables, en tout cas, sans changer notre façon de travailler. Ça peut être soit augmenter les prix, mais on a déjà été obligé de le faire, on n'a pas forcément envie de le refaire. Ça peut être soit diminuer la qualité des produits qu'on propose, mais si on ne change pas la façon de fonctionner, c'est des coûts qui ne sont pas absorbables.
En fait, vous me parlez de survie.
C'est assez simple. Imaginez que chez vous, votre facture, elle augmente de x3, et ben nous, c'est entre x3 et x5. En vrai, c'est un pavé jeté gentiment dans une mare. C'est pas violent, c'est juste, ça me rend triste que potentiellement ce truc disparaisse et qu'il disparaisse en silence. Donc venez, on fait un peu de bruit. Comme ça, au pire, si ça meurt, je pourrais dire ouais, à un moment, j'ai gueulé.
Pour poursuivre mon enquête, je vais tenter de mieux évaluer et surtout de mieux comprendre cette explosion du prix du gaz. Je vais partir du seul élément concret dont je dispose, ma facture de gaz. Je peux facilement y trouver ce que je dois payer. En revanche, je suis bien incapable de comprendre comment elle pourrait évoluer. J'ai besoin de quelques explications. Je prends la route de Liège. je vais y rencontrer les responsables du site internet comparateurenergie.be. Leur but, aider les consommateurs à diminuer leurs factures de gaz et d'électricité.
Je vais mettre 668. Parfait. Et pour le gaz en mètres cubes, monsieur ?
Donc, ça va rester exactement les mêmes fournisseurs. Premièrement, Total, sur une variabilité mensuelle. Ou alors, Eneco, sur une variabilité trimestrielle.
Ces spécialistes analysent votre consommation de gaz, puis regardent les contrats des fournisseurs comme Engie, Mega ou Total Energy, disponibles à ce moment-là sur le marché. Ils cherchent le moins cher pour vous.
Ici, pour le moment, on a 12 000 visiteurs par jour sur notre site. Donc, il y a énormément de monde qui vient consulter les prix, qui vient comparer. Et on a des centaines de personnes qui changent de fournisseur tous les jours.
Antoine Dumont est responsable du site. Je lui soumets ma facture de gaz. Elle s'élève à 150 euros par mois, plus 425 euros en fin d'année. Il va m'expliquer de combien augmenterait ma facture si je signais un nouveau contrat ce jour-là. Et ça va faire mal.
Vous aviez signé un contrat fixe de 3 ans, vous êtes sur Bruxelles, en 2020. Donc c'était une période où les prix de l'énergie étaient beaucoup plus bas qu'actuellement. Vous étiez sur un an à 425 euros. Donc ça, c'est ce que vous avez payé sur un an. Et si on fait une simulation maintenant, on parlerait de 6860 euros. Et donc juste pour la partie énergie, c'est presque 6500 euros plus cher.
Sans que je ne consomme quoi que ce
Avec
soit en plus.
Avec exactement la même consommation.
6500 euros en plus, 540 euros par mois. Franchement, ça fait mal et un peu peur aussi. Comment expliquer cette explosion des prix du gaz ? Qu'est-ce qui fait exploser ma facture ? Pour bien comprendre, les coups de canon vont me guider. Ils vont attirer mon regard vers l'Ukraine et vers un homme, Vladimir Poutine, le président russe. Depuis des années, l'Europe achète massivement du gaz à la Russie. Certains pays comme l'Allemagne ou l'Italie en ont fait leur principal fournisseur. On a même bâti un énorme tuyau dans la mer Baltique pour acheminer ce gaz russe en Europe, le Nord Stream. Et jusqu'il y a quelques mois, il fonctionnait à plein régime. Mais le 20 février 2022, tout commence à mal tourner. Poutine lance ses troupes sur l'Ukraine. Les courbes partent à la hausse. Le prix du gaz double.
J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale. Pour ce faire, nous viserons la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine.
Pour punir Poutine, l'Europe prend des sanctions économiques contre la Russie. En septembre, le président russe réplique. Il commence à fermer le robinet du gaz. Il en envoie moins dans le Nord Stream.
Nous sommes prêts à rouvrir le Nord Stream. Il suffit d'appuyer sur un bouton. Mais pourquoi le faire tant qu'il nous impose des sanctions économiques ?
Sur le marché du gaz, les prix montent en flèche. Les coupes deviennent presque verticales. Plus 27%. Une folie. Vladimir Poutine et sa guerre en Ukraine sont donc clairement à l'origine de cette explosion du prix du gaz. Mais est-il le seul responsable ? Pour les experts des marchés de l'énergie, ce n'est pas si simple. Je rencontre Alexandre Vivier. Il est ingénieur commercial. Il travaille chez un consultant spécialisé dans les questions d'énergie. Il conseille aussi bien les entreprises que les différents gouvernements belges. Il va nous parler de toute une série d'événements peu connus, mais qui, ajoutés aux actes de Poutine, ont envenimé la crise du gaz. Le meilleur exemple vient des États-Unis, plus précisément de Freeport, au Texas. C'est de là que partent les bateaux qui livrent le gaz américain à l'Europe. En juin 2022, un incendie ravage le port. Les autorités annoncent que plus aucune particule de gaz ne pourra passer par là. La hausse du gaz est immédiate en Europe.
On est arrivé dans un système très tendu où chaque mégawattheure de gaz sous forme liquéfiée que l'on peut importer compte. Et donc, dès lors qu'une des installations qui permet justement d'obtenir du gaz naturel liquéfié, ici en provenance des États-Unis, eh bien que cette installation n'est plus disponible, ça rend le marché encore plus tendu et ça renforce le prix des autres sources d'approvisionnement possibles. Ce sont vraiment toute une série de facteurs dont aucun individuellement ne peut à lui seul expliquer l'ensemble, mais pris collectivement, ont créé une sorte de tempête parfaite, comme on le dit, et qui ont amené à la situation que l'on connaît aujourd'hui.
Vladimir Poutine d'un côté, des accidents dus au hasard de l'autre, j'ai l'impression qu'il manque encore un petit quelque chose pour expliquer ces énormes prix du gaz. Un petit quelque chose qui ne doit rien au hasard. C'est Samuel Furfari, spécialiste de la géopolitique du gaz, qui va m'en parler. Cet ancien fonctionnaire européen a participé à la libéralisation du marché du gaz en Europe. C'était en 2000. Il pointe du doigt d'autres responsables qui profiteraient de la crise déclenchée par Vladimir Poutine.
Dès qu'il y a une petite perturbation, il y a des spéculateurs qui entrent dans le marché pour profiter de la hausse, parfois profiter de la baisse, et donc ce phénomène est en train de s'amplifier. Ça, c'est de la spéculation, ce sont les traders. Ça n'a rien à voir avec la disponibilité de la matière première. Évidemment, au début, il y a toujours une petite crise. Et ici, qu'est-ce que c'était? Ben, c'était le fait que, est-ce qu'on va encore avoir du gaz de Russie? Et donc, ça, c'était une vraie crise, mais qui a été amplifiée par des traders.
Et amplifiée de quelle manière et dans quel but?
Pour gagner de l'argent. Le but, c'est de gagner de l'argent. On ne se rend pas compte de la masse d'argent qu'il y a dans le domaine de l'énergie. Tout se compte en milliards et en dizaines de milliards. Et donc, quelques dixièmes de pourcent, ça fait des bénéfices énormes.
Au début de notre enquête, j'ai jeté un coup d'œil sur mes factures pour évaluer ce que je payais pour le gaz. Mais tout le monde sait qu'il y a un deuxième volet sur la facture énergie, celui qui concerne l'électricité. Au départ, on pourrait penser que tout est regroupé sur le même document pour que ce soit plus facile pour le consommateur. Mais en réalité, c'est plus subtil que ça. Il y a un lien direct entre le prix du gaz et celui de l'électricité. Je vais même aller plus loin. Le prix du gaz a un impact majeur sur celui de l'électricité. Pour mieux comprendre tout ça, on va partir d'un exemple concret. Nous rencontrons Tristan Dufoin. Il est propriétaire d'un grand magasin à Jupille. Il nous emmène sur le toit où il a fait installer 156 panneaux solaires.
C'est la réponse inévitable de ma facture énergétique qui explose. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'un exploitant de magasin ne puisse pas mettre des panneaux photovoltaïques puisqu'elle va réduire systématiquement et immédiatement notre facture mensuelle.
À la descente du toit, Tristan Dufoin nous emmène dans un rayon précis de son magasin, celui qui provoque l'emballement du compteur électrique, celui des frigos.
Ce que vous coûte la consommation des frigos a été multiplié par combien ces derniers mois?
J'estime à x3,5. Mais le plus grand danger, c'est qu'en fait, on est passé d'un coût fixe à un coût variable. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle de ça, mais demain, vous revenez, je vous dirai peut-être que ça fait x4, x5. Et c'est ça qui est embêtant, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus répondre à votre question en disant quel coût ça a.
Donc c'est ça qui vous angoisse en fait.
Oui, c'est cette incertitude, clairement. C'est ne pas savoir faire un plan financier, ne pas savoir à quelle sauce on va être mangé, c'est ça le plus embêtant.
Et justement, pour savoir à quelle sauce il va être mangé, il nous invite à plonger dans ses factures. Tout est résumé en un seul mot, explosion.
Alors, l'électricité, c'est pas compliqué. On payait exactement 5 400 € par mois, et ça de manière constante. Aujourd'hui, je suis passé 9 000, 12 000, 14 000 € par mois, et je ne sais pas où ça va s'arrêter. Donc, si je fais mon bilan à la moitié de l'année, j'avais déjà payé 30 000 € l'année passée, ben je suis au double aujourd'hui. C'est ce qui rogne ma marge bénéficiaire.
Comment expliquer que le prix du gaz fasse exploser la facture électrique de Tristan Dufoin? Quel est le lien entre le gaz et l'électricité? Pour tout vous faire comprendre, je vais être un peu technique. En Belgique, l'électricité qui arrive dans votre maison est produite en grande majorité de trois manières. Avec des centrales éoliennes, avec des centrales nucléaires, et puis aussi avec des centrales à gaz. La consommation d'électricité varie au cours d'une journée. Les producteurs d'électricité font donc tourner leurs centrales en fonction de la demande. En toute logique, on se dit que l'on paye son électricité en fonction de la centrale qui nous la fournit. Mais en réalité, c'est plus subtil que ça. Seule compte la dernière centrale allumée pour nous fournir notre électricité. C'est elle qui fixe les prix pour toutes les centrales. Je vais prendre un exemple. Nous sommes un lundi matin d'hiver, vers 5 heures. Les centrales éoliennes tournent déjà, les centrales nucléaires aussi. Elles fournissent de l'électricité aux usines qui ne s'arrêtent jamais et aux familles qui ont besoin de chauffage. Mais vers 6 heures, tout le monde se lève pour aller à l'école ou au boulot et allume lampes et lustres. la consommation d'électricité augmente. Il faut donc déclencher les centrales à gaz pour y faire face. L'utilisation en dernier lieu des centrales à gaz va avoir un impact majeur sur votre facture. C'est leur coût, ce que coûte l'électricité produite avec le gaz, qui servira à calculer votre facture électrique. On ne tient pas compte du prix de l'éolien et du nucléaire. C'est ce qu'on appelle l'ordre du mérite. Mais depuis la guerre en Ukraine, ce système a déraillé. Le prix du gaz a été multiplié par 5 et il a entraîné le prix de l'électricité sur le même chemin. Un prix multiplié par 5 également. On a donc là un paradoxe. L'électricité produite par les éoliennes et les centrales nucléaires n'a pas augmenté. Le vent, c'est toujours gratuit. Et l'uranium, ce n'est toujours pas très cher. Mais le prix de leur électricité est quand même multiplié par 5, entraîné par le prix du gaz. Les propriétaires d'éoliennes et de centrales nucléaires voient donc leurs bénéfices multipliés par 5 sans rien faire. Éric de Kellener, économiste.
Ils font des bénéfices que l'on appelle des bénéfices illégitimes ou des surprofits ou des bénéfices d'aubaine. Les économistes ont quantité de termes par rapport à ce type de situation.
Surprofit, surbénéfice, quelle somme se cache derrière ces mots? On a tenté de trouver quelques chiffres, juste de quoi se faire une idée. On a retrouvé les premiers indices dans un article du journal français Le Monde. On peut y lire que le groupe Total Énergie va verser un dividende exceptionnel de 2,62 milliards d'euros à ses actionnaires. Une prime liée, je cite, « aux résultats dans ce contexte de prix au plus haut ». Un joli trésor. Vu l'énormité des chiffres, on a voulu savoir quelle partie de cette somme fabuleuse était payée par les Belges. On a donc contacté Total Énergie Belgique, qui possède de nombreuses centrales à gaz chez nous. Voici la réponse écrite de son porte-parole.
Je n'ai pas d'éléments de réponse. On ne souhaite pas approfondir les sujets que vous avez indiqués.
Autrement dit, pas d'interview. Nous tenterons ensuite notre chance chez Luminus, qui possède de nombreuses éoliennes chez nous, mais on n'y sera pas beaucoup mieux reçu.
Nous avons reconsidéré votre demande d'une interview, mais nous ne pouvons malheureusement pas y répondre favorablement.
En d'autres mots, pas d'interview. On prendra ensuite notre dernière chance en contactant Engie, qui possède toutes les centrales nucléaires du pays. Et la réponse sera, disons, peu surprenante.
En ce qui concerne vos questions supplémentaires, elles sont sectorielles et liées au marché. Adressez-vous à la Fédération.
Traduction, pas d'interview. Hasard ou pas, ces réponses se ressemblent. Total Énergie, Luminus, nous semblent tous respecter le même dicton. Vivons heureux, vivons cachés. Ceci dit, je remarque que certains producteurs nous renvoient vers la Fédération des producteurs de gaz et d'électricité. Elle s'appelle la FEBEC. Son porte-parole accepte une interview. Nous allons donc le voir avec toutes nos questions sur les surbénéfices des producteurs d'électricité. Contrairement aux producteurs, la Fédération nous parle franchement. Le seul problème, c'est qu'elle peut parler des entreprises dans leur ensemble, mais pas des entreprises une par une, et certainement pas de leurs bénéfices respectifs. Stéphane Bocquet est porte-parole de la FEBEC.
Voilà. Alors écoutez, moi je suis mandaté pour représenter un secteur relativement hétérogène. Je ne peux pas rentrer dans les détails particuliers qui concernent des entreprises individuelles. Je ne suis pas mandaté pour parler pour eux. Je suis mandaté pour parler pour eux en tant que secteur et pas autre chose.
Mais Stéphane Bocquet nuancera quand même cette notion des surbénéfices en rappelant que pendant le Covid, l'économie tournait au ralenti et les producteurs d'électricité avaient vu fondre leurs bénéfices. C'est le jeu de l'économie.
Bien sûr, les profits actuellement sont plus élevés que dans des années moins bonnes, mais il faut bien comprendre que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain. À l'échelle européenne, on va devoir investir 153 milliards par an entre maintenant et 2045-2050, 153 milliards par an dans la production d'électricité et dans la distribution et le transport d'électricité. Pourquoi ? Parce que demain, vous allez rouler en voiture électrique, parce que vous allez acquérir une pompe à chaleur, parce que l'électrification, c'est la transition énergétique.
Autrement dit, les Belges payent beaucoup, mais ce sera utile un jour. Et la FEBEC va plus loin. Pour elle, ce sont avant tout les consommateurs qui ont le pouvoir de faire diminuer les prix du gaz.
Nous avons tous, en tant qu'individus, c'est peut-être un peu paradoxal pour les gens, une possibilité d'agir. Et cette possibilité, c'est vraiment d'économiser du gaz. Cette économie, elle a deux avantages pour le consommateur final. Un avantage tout à fait direct, c'est que l'énergie est chère pour le moment et que chaque kilowattheure que vous ne consommez pas, ben vous ne le payerez pas. Le deuxième avantage, il est plus à long terme, vous participez à la destruction de la demande et de cette manière, vous pesez sur les prix du gaz et vous préparez ainsi un hiver 2023-2024 avec, espérons-le, des prix du gaz en baisse.
Nous sommes en mai 2023. Plus de 7 mois sont passés depuis ces interviews. Il fait encore gris, mais l'hiver est bel et bien terminé. Depuis notre première partie de reportage, le prix du gaz n'a cessé de diminuer. La crise semble s'éloigner. Pour confirmer tout cela, je retourne voir les responsables du site internet comparateurenergie.be. Je rencontre Maxime Song.
Alors, aujourd'hui, on est plus ou moins à 30 euros le mégawattheure sur les marchés de gros. Donc ça, c'est un prix qui exclut les marges commerciales, etc. Donc voilà, c'est un titre indicatif. On est monté jusqu'à 306, donc 10 fois plus élevé.
Pour expliquer cette chute des prix, Maxime Song m'avance un argument tout simple. La météo très douce durant l'hiver.
C'est un hiver qui a été très doux. Donc la demande a été cassé, donc l'offre forcément s'écroule. La seconde chose, c'est que l'Europe, on va dire, a réagi au contexte géopolitique en augmentant le nombre de provenances. Aujourd'hui, il y a du gaz liquéfié qui vient des États-Unis, du Japon, du Qatar. Et donc, la Russie, qui était le premier fournisseur de l'Europe, ne l'est plus, ou plus nécessairement. Et donc, aujourd'hui, tous ces facteurs-là font qu'ensemble, on a pu contrôler le cours du gaz et avoir une diminution sur les marchés financiers.
Depuis le début de ce reportage, j'essaye d'être le plus concret possible, le plus en lien avec la vie de tous les jours. Durant tout l'hiver, j'ai tout fait pour économiser le gaz qui sert à chauffer ma maison. J'ai donc repris mes factures de gaz en main et je les ai de nouveau soumises à l'analyse du site monenergie.be, histoire de voir ce que j'allais payer avec les nouveaux tarifs d'aujourd'hui.
Alors, la bonne nouvelle, si on le dit comme ça, c'est qu'on n'est plus à plus de 6 000 euros, mais à plus de 900 euros. Donc, on va dire l'ordre de grandeur est divisé par 6. Après 900 euros sur une année, ça fait quand même 75 euros par mois. Pour un consommateur lambda, c'est beaucoup.
Le consommateur lambda, c'est moi. Je ne paierai donc pas 6 000 euros de plus pour mon gaz. Et là, c'est un grand ouf. Mais reste que malgré une consommation de gaz que j'ai fait diminuer de 40%, en mettant le thermostat de mon chauffage sur 17 degrés tout l'hiver, je vais encore payer 900 euros de plus à la fin de l'année. Franchement, même si la catastrophe s'éloigne, ce n'est pas facile à avaler. Pour aller plus loin dans l'analyse de cette folle course des prix du gaz ces derniers mois, je rencontre l'économiste Éric de Keulener. Il me rappellera très vite, lors de cette interview, le rôle des spéculateurs. Il confirme qu'ils ont poussé les prix du gaz vers l'explosion. Et cette fois, il avance des chiffres, des bénéfices qu'ils ont engrangés.
On peut estimer entre 100 et 150 milliards d'euros au moins se sont retrouvés sous forme de bénéfices auprès de ces sociétés de trading et des sociétés pétrolières. Et c'est là probablement une estimation minimale. D'une part, les sociétés spécialisées dans le trading ont déclaré des bénéfices de plusieurs dizaines de milliards de dollars, donc plusieurs dizaines de milliards d'euros, tous ensemble. D'autre part, les grandes compagnies pétrolières, par des Shell, Total, Exxon, la part des bénéfices qui provient de la spéculation dépasse parfois la part des bénéfices qu'elles réalisent sur la production.
La question que tout le monde se pose après ces mois de crise énergétique, c'est évidemment de savoir si ça va recommencer l'hiver prochain. Toutes les personnes à qui j'ai posé la question m'ont toutes dit qu'elles n'avaient pas de boule de cristal. Un hiver très froid, la guerre en Ukraine qui s'envenime, pourrait relancer la machine. Il reste donc très prudent. Mais Maxime Song, du site monenergie.be, rappelle juste qu'après le Covid qui avait fait s'effondrer le prix du gaz et la guerre en Ukraine qui l'a fait exploser, on est sans doute plus proche d'un prix stable aujourd'hui.
Beaucoup d'experts disaient qu'avant la crise, le prix de la molécule de gaz était anormalement bas et ne représentait pas le coût réel de cette énergie. Donc le fait qu'on soit aujourd'hui aux alentours de 30 euros est à nouveau un signe qui va dans la bonne direction.
Mais pour d'autres spécialistes, on doit analyser cette récente crise du gaz autrement. Il faut voir au-delà du prix. Les prix exorbitants du gaz nous ont tous poussés à consommer moins. De nouvelles habitudes se sont installées et il ne faudrait absolument pas les perdre. Pour Francisco Contino, spécialiste transition énergétique à l'école polytechnique de Lucé-Louvain, une autre crise nous menace. Au-delà de la crise du gaz, c'est celle du réchauffement climatique.
On a quand même diminué globalement de près de 15% notre consommation de gaz, qui est quand même très importante. Et malheureusement, en disant ça, on sait aussi qu'une partie de la demande a été transférée vers d'autres moyens de production. Un exemple, c'est l'Allemagne et le charbon. Et donc là, malheureusement, pour le CO2, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle.
Pour Francisco Contino, tout se jouera l'hiver prochain. Il espère que les Belges ne reprendront pas leurs habitudes de consommer beaucoup de gaz si les prix restent bas. C'est là que tout va se jouer.
Si, avec un prix raisonnable, on maintient le niveau de demande qu'on a eu l'hiver passé et qu'on essaye globalement de diminuer l'utilisation d'énergie globalement, pas seulement de fossiles mais d'énergie, alors on a un espoir. Si par contre le prochain hiver est difficile pour des raisons qui nous échappent pour l'instant, parce qu'on n'est pas devin, en mai on ne peut pas prédire ce qui va se passer d'ici la fin de l'année, au début de l'année prochaine, alors oui, j'aurais peut-être un petit peu moins d'optimisme, mais je n'arrêterai pas de dire qu'il faut quand même continuer à travailler sur les limites planétaires.
En résumé, depuis un an, le prix du gaz a bousculé nos certitudes. Nombreux sont ceux qui ont craint de ne plus pouvoir payer leurs factures. Et j'en fais partie. On s'en est sorti plus ou moins bien en faisant de terribles efforts d'économie. Mais reste à présent à transformer cet effort en habitude. Et ça, ce n'est pas encore gagné.
Nous sommes de retour en studio avec nos invités. Stéphane Bocquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de la FEBEG, la Fédération Belge des Fournisseurs et des Producteurs de Gaz et d'Électricité. Julie Frère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de l'Association de Défense des Consommateurs Testachat. Merci à tous les deux d'être avec nous. On a connu un hiver très difficile avec cette crise des prix de l'énergie. Stéphane Bocquet, est-ce que vous pensez que cette crise énergétique, elle est déjà derrière nous ?
Elle n'est pas complètement derrière nous parce que le conflit avec l'Ukraine existe encore et parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes en ce qui concerne l'hiver prochain. Même si on peut quand même dire que aujourd'hui les stocks européens sont bien remplis à la sortie de l'hiver. Ça, c'est le gain des efforts qu'on a fait l'année dernière et qu'on est plutôt bien positionné pour atteindre un remplissage à 90% au début de l'hiver.
Alors cette crise était très aiguë. On l'annonçait longue, pourtant les prix sont redescendus peut-être plus vite que prévu. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ?
Alors, si les prix sont redescendus, c'est essentiellement parce que l'Europe a réussi à diversifier ses approvisionnements très, très rapidement et surtout parce qu'il y a eu des efforts considérables de sobriété énergétique. Environ 15% de diminution de gaz en Europe, c'est considérable, c'est du jamais vu. Et ça, c'est une grande partie de l'explication, mais pas la seule. Il y a aussi beaucoup de gaz sur le marché pour le moment. On voit que les bateaux GNL ont réduit leur vitesse commerciale, ce qui signifie qu'ils sont en attente d'un endroit où ils peuvent débarquer. Donc la situation a changé. Mais il faut bien noter qu'actuellement, nous sommes en période estivale. Ce n'est pas le moment où on consomme le plus d'énergie. Le défi qui nous attend, c'est clairement l'hiver prochain.
Et on va en parler évidemment. Julie Frère, pour les consommateurs, c'était une période extrêmement compliquée, très stressante. Quel regard vous portez sur l'année qui vient de s'écouler ?
Ça a été effectivement une période très compliquée. Je crois qu'on n'a jamais reçu autant d'appels dans le secteur de l'énergie. C'est vrai qu'auparavant, on était moins attentif à notre facture d'énergie. Tant qu'on payait un prix plus ou moins raisonnable, on se préoccupait relativement peu de sa consommation, on se préoccupait peu du prix qu'on payait. Mais ici, avec les hausses de prix extrêmement soudaine qu'on a connue, eh bien, on a été inondé d'appels, beaucoup de détresse dans le chef de plusieurs ménages. Vous avez dit certains craignaient de ne plus pouvoir payer leurs factures, mais très concrètement, certains n'ont plus pu payer leurs factures. Et on a vu les demandes de plans de paiement qui ont explosé, les demandes aussi aux banques alimentaires qui ont explosé. Donc, c'est un bien de base dont on a tous besoin, l'énergie, pouvoir se chauffer, pouvoir s'éclairer. Et c'était une période vraiment inédite qu'on a vécue ces derniers mois.
Il y a eu des mesures qui ont été prises, l'élargissement du tarif social, la TVA à 6%. Les autorités ont réagi à la hauteur de la crise qu'on connaissait.
Alors je pense qu'on n'était pas préparé à ce qui allait se passer et qu'on a dû réagir un petit peu dans l'urgence avec des mesures ponctuelles. Donc il y a eu toute une série de primes, de paquets énergie, d'élargissement du tarif social aussi, qui a été selon nous une très bonne mesure. Donc des mesures ponctuelles qui ont permis un petit peu de venir mettre un sparadrap aux endroits où ça faisait le plus mal. Mais pour nous, il faut vraiment tirer les leçons de ce qui s'est passé pour pouvoir envisager des solutions plus structurelles, justement pour pouvoir se prémunir de situations similaires dans le futur.
Stéphane Bocquet, donc je le rappelle, vous êtes porte-parole de la FEBEG, la Fédération Belge des Fournisseurs et des Producteurs de Gaz et d'Électricité. Est-ce que vous avez une idée de l'impact réel de l'augmentation de ces prix sur les clients des entreprises que vous représentez ?
Si on regarde l'année 2022 et qu'on regarde le portefeuille client dans son ensemble, il faut rappeler qu'un ménage sur cinq était protégé par le tarif social. Pour le reste du public, c'est-à-dire les gens qui étaient traités au tarif commercial, dans le marché libre, il faut rappeler qu'au début de l'année, 65% des gens avaient encore des contrats fixes. En réalité, beaucoup de gens n'ont pas ressenti cette crise. Mais par contre, ceux qui ont été exposés directement au marché au mauvais moment, eux, ils l'ont ressenti de plein fouet.
Je voudrais quand même ajouter qu'il y a des personnes qui ont eu des contrats fixes, qui ont quand même souffert très fort de la crise parce que leurs contrats ont été prolongés, parfois à des tarifs tout à fait prohibitifs. On a eu plusieurs exemples de personnes avec des factures de régularisation de plusieurs milliers d'euros, simplement parce qu'ils n'ont pas réagi au moment où un nouveau contrat fixe leur était proposé. Donc les personnes les plus touchées ont été évidemment celles qui avaient un contrat variable, mais dans certains cas de figure, les personnes avec un contrat fixe ont également souffert.
Alors on parle de ceux qui ont souffert, je voudrais aussi qu'on parle de ceux qui en ont profité. On l'a entendu dans le reportage qui vient d'être diffusé. Les producteurs d'énergie, les spéculateurs auraient gagné jusqu'à 150 milliards de bénéfices. Stéphane Bocquet, qui a profité réellement de cette crise ?
Alors en Belgique, il faut être clair. D'abord, l'approvisionnement en gaz de la Belgique vient essentiellement de la Norvège et des Pays-Bas pour environ les trois quarts de notre approvisionnement. Donc l'argent des Belges a été vers les pays producteurs de gaz. Ça, c'est la première explication. Par contre, il y a beaucoup de choses qui ont été dites à propos des fournisseurs et à propos des producteurs de gaz et d'électricité. Et ici, je veux quand même démentir certaines idées reçues. Nous avons fait une analyse pour la deuxième année consécutive des résultats opérationnels des fournisseurs. Et pour la deuxième année consécutive, les fournisseurs sont en perte, ils sont dans le rouge, les cinq plus grands fournisseurs, à moins 1,4% de marge sur les opérations.
Donc pour nos auditeurs, pour être très clair, il faut faire la différence entre producteurs de gaz et fournisseurs de gaz.
Absolument, mais je vais venir maintenant aux producteurs. Les deux plus importants producteurs en Belgique, à savoir, je ne vais pas les citer, les deux leaders de marché en Belgique viennent d'annoncer leurs résultats. Ils sont tous les deux dans le rouge, dans leur activité, leur périmètre d'activité consolidé, c'est-à-dire à la fois la production et le retail, donc la vente aux particuliers.
Donc ces 150 milliards de bénéfices, ils ne sont pas en Belgique ?
L'essentiel n'est certainement pas en Belgique.
Gérald Vandenberg, vous êtes journaliste à Investigation. On l'a entendu, vous avez réalisé cette enquête au cours de l'hiver dernier. Vous avez un peu servi de fil rouge finalement en tant que consommateur dans ce reportage. Quelles mesures est-ce que vous avez dû prendre finalement pour faire face à cette montée des prix de l'énergie ?
Des mesures de bon sens en fait. J'ai diminué le thermostat drastiquement, donc je suis passé à 17 degrés durant tout l'hiver, ce qui n'est pas facile. Et puis j'ai changé ma maison, c'est-à-dire que j'avais une maison de plein pied assez ouverte et je l'ai fermée. J'ai créé ce que j'appelle une hotbox, donc autrement dit j'ai réservé deux pièces que j'ai entourées de tentures quelque part et je n'ai plus chauffé que ces deux pièces-là, plus la salle de bain quand même, de façon à limiter la surface que je chauffais tout au cours de cet hiver. Alors ça a eu un effet positif puisqu'en gros je viens de recevoir mon décompte, donc j'ai réduit ma consommation de gaz d'à peu près 40%, mais en discutant avec Monsieur Bocquet, j'ai toujours cru que c'était grâce à ma propre économie, à mes propres efforts que j'avais réussi cet exploit, enfin ceux de ma compagne aussi, mais il m'a quand même précisé que c'était sans doute dû en grande partie aussi au fait que l'hiver a quand même été particulièrement bon, et donc qu'en gros la consommation a diminué de manière automatique puisque je n'ai pas eu à faire face à des gelées importantes.
Julie Frère, du côté de Testachat, on a vu aussi ce genre de démarche individuelle pour tenter à tout prix de réduire sa consommation et réduire sa facture.
Tout à fait, on a reçu énormément de questions à ce sujet. Après, je voudrais insister sur ce qu'on a nommé la fracture énergétique pendant cette crise, hein, parce qu'évidemment, il y a toute une série de personnes qui habitent dans des passoires énergétiques, qui sont locataires par exemple, et qui n'ont pas les moyens d'accès à une amélioration en fait, de l'efficience énergétique de leur bâtiments. Et donc ça, c'était un vrai problème. Je pense qu'ils ont été aussi un petit peu laissés pour compte. On a beaucoup parlé d'isolation, d'encouragement à l'isolation. Quand on n'est pas propriétaire, c'est effectivement très compliqué. Idem pour le placement de panneaux photovoltaïques. Donc on a vu certaines personnes qui ont été très bien prémunies, qui ont placé du photovoltaïque, qui ont une voiture électrique, qui ont pu isoler, qui ont accès à l'information et aux moyens financiers pour le faire, alors qu'une autre partie de la population, malheureusement, a été exclue de ces améliorations.
Oui, je pense que ça, c'est vraiment important à dire, c'est que pour économiser de l'argent, il faut en dépenser. Mais il faut en avoir à dépenser, sinon on ne fait pas d'économie.
C'est en effet important à mentionner. La question maintenant, c'est est-ce qu'on est mieux préparé pour l'hiver prochain ? Est-ce que il y a des éléments qu'on doit surveiller et qui pourraient être annonciateurs, Stéphane Bocquet, d'une nouvelle crise ?
Absolument. Donc, il faut voir comment l'hiver va se passer. Hein. Il faut que l'hiver soit clément. S'il ne l'est pas, eh bien, il y aura de la tension sur le marché. Il faut voir que les Russes qui continuent quand même à fournir un peu d'énergie, un peu de gaz à l'Europe continuent à le faire, qu'il n'y ait pas de problème de ce côté-là.
Juste sur la Russie, comme ça, on remet le cadre. La Russie fournissait 6% du gaz belge. Depuis le début de la guerre en Ukraine, cette source-là est totalement fermée. Mais la Belgique n'est pas le pays le plus dépendant au gaz russe, mais d'autres en Europe, comme par exemple l'Allemagne, avec 40% de gaz russe, étaient davantage. Est-ce qu'on a pu compenser aujourd'hui ces apports de gaz russe ?
Alors, on les a compensés de deux manières, pas totalement, mais on les a compensés par la sobriété énergétique, 15% de diminution de consommation de gaz en Europe, mais aussi en Belgique, c'est très important. C'est l'effort le plus important et c'est un effort que je souligne qu'il faudra continuer l'hiver prochain, impérativement. Et la deuxième chose, c'est que l'Europe s'est battue comme un beau diable pour diversifier ses sources d'approvisionnement et y a réussi en attirant des cargaisons de gaz liquéfié en provenance du monde entier.
Julie Frère, quand vous entendez parler de sobriété énergétique, pour vous c'est une des clés de cette crise, mais est-ce qu'elle ne repose pas finalement du coup sur les gens et moins sur l'industrie gazière ?
Quelques chiffres quand même pour donner du contexte. En Belgique, on a le deuxième bâti le plus vétuste d'Europe. On est quatrième en termes de consommation par mètre carré. Donc ça vous donne un petit peu une idée de l'ampleur du travail qu'on a à accomplir pour permettre d'atteindre l'efficience énergétique. C'est la solution numéro un, absolue. On a vu pendant la crise que certains consommateurs nous interpellaient en nous disant « on m'a dit qu'il fallait que je place des pompes à chaleur, on m'a dit qu'il fallait que j'installe des panneaux photovoltaïques, etc. » Et on se rendait compte que l'ordre des priorités n'était pas du tout connu. Ça n'a absolument aucun sens de placer une pompe à chaleur dans une maison qui n'est pas du tout isolée. Donc là, les autorités ont un rôle absolument crucial. Parce qu'aujourd'hui, malgré tous les efforts qui ont été faits pour simplifier les choses, ça reste très compliqué. Souvent, on ne peut obtenir l'argent qu'à posteriori, après l'avoir déboursé en premier lieu. Et il y a beaucoup de ménages qui ne parviennent pas à le faire. Donc aujourd'hui, ça doit être la priorité absolue et numéro un de nos autorités. C'est de faciliter l'accès à ces primes isolation ou d'envisager peut-être même un autre système, mais pour que réellement on concrétise cet objectif d'efficience énergétique.
Alors les prix, on l'a dit, ils ont drastiquement baissé. Ils restent quand même élevés, mais ils ont évidemment baissé par rapport au pic qu'on a connu l'année dernière. Vers quoi, Julie Frère, est-ce qu'il faut se tourner aujourd'hui comme type de contrat ? Quels conseils est-ce qu'on peut donner concrètement aux gens ?
Alors, je pense qu'il faut partir de sa situation individuelle. Déjà, regardons un petit peu les prix des contrats fixes aujourd'hui. Ils ont effectivement diminué. Malgré tout, les contrats fixes restent deux fois plus chers qu'avant la crise. Donc, ça remet quand même un petit peu en perspective. Et selon les calculs que nous avons effectués chez TestAchat, les contrats fixes restent plus cher que les contrats variables, environ 350 euros, si on prend l'exemple de la Wallonie, pour une consommation moyenne. Et donc, vous devez partir de votre situation en vous disant, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, je veux le contrat le moins cher et risquer éventuellement une hausse de prix, ou bien est-ce que je suis prêt à payer plus cher, en sachant le quantifier, c'est important de prendre cette décision en connaissance de cause, mais en étant certain de ne pas faire face à de hausses de prix, en particulier cet hiver.
Stéphane Bocquet, du côté du secteur, ces contrats fixes, ils avaient totalement disparu, ils réapparaissent, on a vu pas mal de critiques sur les réseaux sociaux en disant « Ah, comme par hasard, les prix baissent, c'est le retour des contrats fixes ». Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Eh bien qu'en Belgique, on a une particularité absolument unique en Europe, c'est que le contrat fixe, il n'est fixe que pour une seule des parties, à savoir pour le fournisseur. Le client, lui, il peut partir quand il le souhaite. Et l'assèchement des contrats fixes provient tout simplement de cela. Dans un marché aussi surchauffé, eh bien, si vous achetez chez moi de l'énergie et je dois me sourcer pour vous pour 3 ans, à un prix absolument énorme, puisque je suis confronté à ces marchés surchauffés. Vous pouvez partir au bout de 6 mois. Moi, j'ai acheté l'énergie pour vous pour 3 ans, et puis je me retrouve avec ce paquet d'énergie que je ne sais pas replacer dans le marché, que je dois dumper à un client suivant. Donc cette mesure, qui à l'origine est une quasi unique en Europe, avait comme idée de protéger le consommateur, s'est retournée contre lui.
Julie Frère, vous souhaitez réagir ?
Mais on a pu entendre cette demande des fournisseurs dans la période de forte volatilité des prix qu'on a connue. On s'était prononcé comme étant favorable pour cette indemnité de rupture de façon strictement temporaire et encadrée, à condition de supprimer aussi ce que les fournisseurs utilisent déjà en fait comme indemnité de rupture, parce que les fournisseurs facturent ce qu'on appelle une redevance annuelle. Plutôt que de facturer cette redevance annuelle au prorata du temps que vous restez dans le contrat, la plupart des fournisseurs facturent cette redevance par année entamée. Ça veut dire que si vous quittez votre fournisseur, vous allez perdre cette somme d'argent. Pour nous, ça ressemble à une indemnité de résiliation déguisée. Donc il n'est pas question d'introduire une indemnité de résiliation en plus d'une redevance annuelle qui joue déjà ce jeu. Les contrats fixes sont effectivement la préférence des Belges. Ça fait aussi partie des recommandations de la Commission européenne adoptée en mars pour faire face à une nouvelle crise, c'est obliger chaque fournisseur à toujours proposer dans son offre au moins un contrat fixe.
La redevance annuelle n'est en aucun cas une indemnité de rupture. C'est un tarif, si vous voulez, de service. Démarrer une relation commerciale, ça coûte de l'argent. Et beaucoup de fournisseurs mettent cette indemnité de rupture de manière proportionnelle. Pas tous, je le reconnais.
Elle dépasse
beaucoup,
parfois plus d'une centaine d'euros.
Le font de manière proportionnelle, c'est-à-dire en respectant ce qui a déjà été fait et qu'est-ce qui doit encore arriver derrière.
Quels sont les outils qui sont à la disposition des consommateurs alors pour tenter de s'y retrouver?
Alors, il y a les comparateurs chez TestAchat, mais aussi évidemment les comparateurs des différents régulateurs qui se sont enfin mis d'accord sur une méthode uniforme de calcul, parce que c'est vrai que pendant une période, on obtenait des résultats différents si on faisait le calcul sur le comparateur flamand ou si on faisait le calcul sur le comparateur fédéral. Donc, ça a été enfin uniformisé, mais donc il faut absolument utiliser ces outils et le faire de façon récurrente. Je dirais pas qu'il y a des moments précis où il faut absolument le faire, mais moi je conseille à tout le monde de mettre un petit rappel dans son agenda pour le faire au moins 2 fois par an. Ça prend quelques minutes, on peut changer de fournisseur aujourd'hui, au-delà de la redevance dont on vient de parler, qu'on déplore, mais on peut changer de fournisseur assez facilement. C'est les fournisseurs qui s'occupent entre eux de prendre en charge toutes les démarches nécessaires, il faut simplement communiquer certaines informations, c'est très facile, donc il faut franchement pas hésiter à le faire.
Ça a toujours été le cas, ça n'est pas nouveau. Donc le changement de fournisseur en Belgique, c'est quand vous le voulez. Effectivement, quand j'ai entendu tout à l'heure qu'on disait que des consommateurs ont été forcés à reprendre un contrat fixe, par exemple, le consommateur fait ce qu'il veut.
Mais j'ai pas dit qu'ils étaient forcés, j'ai dit que c'était pas clairement communiqué. C'était très souvent le cas. On a eu beaucoup d'exemples de personnes qui sont passées d'un type de contrat à un autre sans information claire de la part du fournisseur. Il y a certainement des pratiques qui doivent être améliorées, qui ont déjà été améliorées pour la plupart, notamment suite aux relations constructives qu'on a eues avec les fournisseurs. Mais il faut pouvoir aussi balayer devant sa propre porte. Il y a eu des pratiques qui n'étaient pas acceptables et qui ont été améliorées. Je pense que là, l'information vers le consommateur, mine de rien, on a dû en très peu de temps se familiariser avec ces factures d'énergie auxquelles on prêtait peu d'attention par le passé. C'était pas si évident pour l'immense majorité des gens. Et donc, il faut de la part des fournisseurs une information claire, intelligible, transparente. Et pour nous, il y a encore du travail sur certains aspects.
Il faut souligner une chose, effectivement, plus que jamais, il faut s'intéresser à l'énergie, pas seulement à la facture, mais au concept de l'énergie en général. Il faut une éducation à l'énergie, parce qu'on va vers un monde énergétique qui va devenir encore plus compliqué que ce qu'il ne l'est aujourd'hui. Il faut bien s'en rendre compte avec la transition énergétique. Demain, on va parler de pompes à chaleur, on va parler de prix dynamiques, on va parler de véhicules électriques, on va parler de partage d'énergie. Donc, on ne va pas vers un monde qui est nécessairement moins complexe. Notre rôle, nous, en tant que fournisseurs, c'est de mettre des produits à disposition qui soient les plus transparents possibles et qui aident les gens dans cette transition énergétique à gérer tous ces éléments.
Moi, je pense que l'énergie, ça va rester un souci encore pendant de nombreuses années. Il faut s'y attendre. Alors peut-être que le prix n'explosera pas, mais le souci énergétique, il va rester et il va falloir qu'on y prête de plus en plus d'attention.
C'est la fin de cette investigation. Merci à nos invités, merci à Amaury Boucher pour la réalisation de ce podcast et merci à vous qui nous écoutez.